merveilleuse durée. Sur visage bien rasé, l'âme le coq a passé.
Ah oui, c'était quelque chose, la dame de rasoir française. J'entends mon invité qui rit déjà. On va se retrouver donc le temps d'une première chanson avec Enrico Macias. Là, je crois que nous sommes dans un souk, dans un marché d'Afrique du Nord, un de ces marchés de l'enfance d'Enrico Macias et qui entretiennent évidemment sa nostalgie, mais qui ont nourri aussi la multiplicité de ses cultures musicales, juives, arabes et françaises. C'est un des sujets dont nous allons parler ensemble ce matin.
La simplicité des journées d'été, ces petits moments superbes, déjeuner sur l'herbe. J'aime les cafés en hiver, passer boire un verre, attraper la chance aux cartes juste avant qu'elle parte. On est tous les mêmes dans cette histoire qui finit dans le noir. Je dis les mêmes, c'est pas sûr qu'on se ressemble, on est bien ensemble. La vie populaire, c'est toute ma vie passagère. La vie populaire, j'ai envie qu'elle ne soit jamais finie. La vie populaire, c'était la vie de ma mère et celle du père de mon père. Rien à faire, c'est ma vie sur la terre. J'aime la musique toute nue, des balles dans la rue, les amours qui durent un soir, les danses inconnues. J'aime quand à la fin des matchs, on plaisante, on tchatche, et quand on raconte nos drames à nos saintes femmes. On est tous les mêmes dans cette histoire qui finit dans le noir. Je dis les mêmes, c'est pas sûr qu'on se ressemble, on est bien ensemble. La vie populaire, c'est toute ma vie passagère. La vie populaire, j'ai envie qu'elle ne soit jamais finie. La vie populaire, c'était la vie de ma mère et celle du père de mon père. Rien à faire, c'est ma vie sur la terre.
Bonjour Enrico Macias.
Bonjour Benoît, bonjour.
Je disais au début de l'émission, vous n'avez pas du tout honte et même vous êtes fier d'être défini souvent comme un chanteur populaire. Hein. C'est ce que vous chantez dans cette chanson d'une certaine façon.
Écoutez, c'est un grand privilège d'être un chanteur populaire.
Oui, oui.
Il y a tellement d'artistes qui voudraient l'être.
Ça, on peut le dire.
Et je le suis devenu au fil des années. Et je crois que même c'est arrivé tout de suite. Et... évidemment, les mauvaises langues confondent souvent populaire et populiste.
Ah voilà, c'est et la distinction à laquelle vous tenez. Oui.
Ouais, ouais, moi, je suis vraiment populaire. C'est-à-dire que j'aime les gens, j'aime le genre humain.
Vous aimez la vie simple que vous chantez dans cette chanson de Jean-Loup Dabadi, la simplicité des rencontres, des cafés, de la vie de tous les jours.
Ce que j'ai voulu dire dans cette chanson, c'est que... je ne suis pas du tout une star. Ah, c'est-à-dire que moi, j'aime vivre un petit peu comme tout le monde. La vie quotidienne, c'est très important.
Ouais.
Et je crois que je n'aurais jamais écrit toutes les chansons de mon répertoire si je n'avais pas été comme ça. Parce que, vous savez, quand vous vous éloignez du peuple, je m'excuse de faire cette métaphore, mais il y a beaucoup de gouvernants qui devraient se mêler un peu plus au peuple.
Se rappeler à la vie simple, tout simplement.
Et ne pas se prendre pour des gens supérieurs. Et voilà, c'est ça.
Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est dans un album paru en 2006, donc assez récent, avec notamment, c'est pas la première que vous avez fait avec lui d'ailleurs, donc je le disais, Jean-Louis Dabadie, c'est un complice depuis quelques années aussi de chansons.
D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Louis Dabadie, ouais. Puis pendant plusieurs années, on se rencontrait, on est devenus amis,
voilà.
Et à chaque fois, je mourais d'envie de travailler avec lui, et lui aussi. Et puis ça s'était pas présenté pendant des années. On allait dîner, déjeuner ensemble, sans écrire. Et puis un jour, je me suis lancé. Je lui ai dit, écoute, Jean-Loup, je veux que tu m'écrives des chansons.
Ouais.
Je veux que tu m'écrives des textes. Je te donne des musiques et tu m'écris des textes. Et voilà, il me dit, écoute, avec grand plaisir. Il est venu à la maison. Il a connu Suzy, ma pauvre femme, qui est partie maintenant.
En 2008.
Ouais, en 2008, en décembre 2008. Et vraiment, c'était un plaisir d'être à côté de lui.
Et puis dans ce disque aussi, alors votre autre complice, on peut dire régulier, en musique aujourd'hui, c'est votre fils.
Oui,
Jean-Claude.
Mon fils
qui
Jean-Claude.
Qui est l'arrangeur,
oui.
Partenaire de
qui m'a fait connaître, qui m'a fait connaître de nouveaux
une nouvelle génération de musiciens.
Oui,
c'est ça.
Qui m'a fait connaître de nouveaux auteurs aussi, comme Marc Estève. Art Mango, tous ces gens-là. Puis maintenant, on est en train de préparer un nouvel album et je peux dire déjà que il y a un artiste qui va écrire pour moi qui s'appelle Miossec.
Ah oui, Miossec.
Voilà.
Ça, c'est une rencontre inattendue,
voilà,
entre le breton et l'algérien.
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de points communs entre la musique bretonne et la musique algérienne.
Oui.
Par exemple, nous avons un instrument qui s'appelle la zorna, c'est en fait la cornemuse bretonne. Et je veux dire, quand j'écoute Alan Steven, c'est un petit peu comme de la musique.
C'est vrai.
Soit
dites,
berbère,
raison.
Soit. Vous savez, la musique, c'est universel. Hein.
Alors, on va justement parler de cette universalité de la musique et des différentes cultures entrecroisées que vous incarnez si bien, Enrico Macias. Pour reparler de votre jeunesse, j'ai sorti une chanson, ça va peut-être vous surprendre un peu, parce que c'est une artiste qu'on n'entend plus jamais, mais je crois que ça vous dira quelque chose.
M'appelle l'Oriental, au regard fatal. On m'appelle l'Oriental, la sentimentale. Les chouffnés, elles bouillent chouval, les enfnés, oula yassal. Pourtant je ne fais pas de mal, on m'appelle l'Oriental. On critique ma vie, on aime ma compagnie. En esrira, on me n'achèche, et je t'habou andé, me n'arrache. J'aime la musique et le chant, je trouve cela épatant. Que voulez-vous, c'est peut-être banal, mais je suis une vraie orientale. Je chante ce qu'il me plaît, musique arabe ou espagnole. Aïe aïe aïe, la musique me rend folle. Sbah warchi en renni, fesh l'aïcha ta'jbni. Ah, yibda elbi yash'al, je suis une vraie orientale. On m'appelle l'orientale. Je suis très sentimentale. Les chauffnées, يزعل بيعرفني والله يحسن Pourtant je ne fais pas de mal On m'appelle l'Oriental
En 1952, vous aviez 14 ans, Enrico Macias. Je me suis dit que peut-être dans votre enfance constantinoise, on entendait cette grande artiste algéroise complètement oubliée, Lynn Monti.
Mais je vous avoue que c'est la première fois que j'entends cette
interprétation version de l'Oriental.
On m'appelle l'Oriental par Lynn Monti. J'ai très bien connu Lynn Monti.
Ouais.
Et
c'est beau, non?
C'est magnifique. C'est une magnifique interprétation, vraiment. Hein, vraiment, je me suis régalé de l'entendre. Et en plus de ça, j'adore la voix de Lynn Monti. C'est quelqu'un qui restera dans l'histoire de la musique de chez nous.
Elle symbolisait vraiment la chanteuse française d'Algérie.
Franco-orientale, oui, oui. Même dans les paroles,
oui.
c'est un mélange d'arabe et de français.
Oui, on a remarqué, oui, c'est
il y a
ça.
Toujours des intonations orientales dans sa voix. Je voudrais dire un mot sur Lynn Monti, c'est que je lui dois beaucoup
elle
dans
vous a
ma
donné
carrière.
Un coup de pouce.
Oui, elle m'a donné un coup de pouce, je vois que vous le savez bien.
Oui.
Et c'est, Lynn Monti, c'était mon premier spectacle que je faisais à Saint-Raphaël. Je raconte très vite, hein,
oui,
très
oui.
vite l'histoire. Le présentateur me met en début de spectacle, c'est-à-dire les gens n'étaient même pas installés,
oui.
que j'ai commencé à chanter. Dans l'indifférence la plus complète, et j'ai pris un bide
ça
énorme.
C'est très mal passé. Hein.
Ah,
ça,
très, très
vous
avez mal
failli
passé.
Arrêter, quoi.
Oui, oui, j'ai pas arrêté, non. Mais c'était dans de telles mauvaises conditions que vraiment, j'en voulais au présentateur de m'avoir mis comme ça dans des conditions pareilles. Et j'étais vraiment très malheureux. Et Lynn Monti était la vedette américaine de Gilbert Bécaud.
C'était Gilbert Bécaud, la deuxième
Gilbert
partie.
Oui, de Gilbert Bécaud. Et Lynn Monti, me voyant malheureux comme ça, elle ne me connaissait pas encore très bien. Hein. Elle ne me connaissait pas. Elle avait un cœur d'or.
Ouais.
Et elle est sur scène, au milieu de son spectacle. Elle a dit, je voudrais que Enrico Macias vienne me rejoindre sur scène et vous allez écouter ce chanteur. Et j'ai rechanté.
Ah oui.
Et là, ça a marché. Le lendemain, Louis Nucera, qui était le critique du journal...
Nice Matin, non?
Non, Le Patriote, je crois que c'était,
ah oui.
à l'époque. Et il avait écrit une critique sur moi. Il avait mis une étoile aînée, Enrico Macias.
Donc, ça s'est passé
compte,
vraiment ce jour-là.
C'est grâce à Lynn Monti. Sinon, j'aurais été dans les oubliettes. Voilà.
Voilà un joli moment de vos débuts, Enrico Macias. Alors, bon, vous l'avez raconté souvent, mais je voudrais quand même qu'on y revienne pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Je rappelle que vous avez grandi dans une famille de musiciens, que votre père était un musicien professionnel.
Grand violoniste.
Qui, en même temps, il ne vous a pas vraiment, au départ, encouragé à devenir musicien. Il aurait préféré que vous deveniez ingénieur, hein, si je me rappelle bien.
Oui, il me disait toujours, mais jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est. Qu'un ingénieur, mais il voulait que je devienne ingénieur. Incroyable.
Et il y a une grand-mère qui vous a
ma grand-mère, elle
hein.
me passait tous mes caprices, tout ce que je demandais. J'étais vraiment très gâté par ma grand-mère qui m'a élevé. Et un jour, j'ai eu un petit accident de vélo. C'était ma grand-mère qui me payait la location de vélo. Et quand j'ai eu le petit, je me suis cassé l'arcade sourcilière. Et mon père, ma mère, tout le monde m'a empêché de louer des vélos.
Ouais.
Ils avaient interdit à ma grand-mère de me donner, et en cachette, elle me donnait de l'argent. Et je recontinuais à faire du vélo.
Ouais. Et puis, votre première guitare.
Alors voilà. Ma grand-mère, un jour, elle vient me voir, elle me dit que... Tu veux jouer de la guitare? Je lui ai dit oui. Elle me dit alors, t'inquiète pas. Quand elle allait tous les ans en Tunisie pour un pèlerinage, et à chaque fois, elle me ramenait un cadeau. Et un jour, je vois quelqu'un arriver de la part de ma grand-mère, une guitare enveloppée dans du papier. C'était même pas une housse. J'ai enlevé vite le papier comme ça. Je l'ai accordé un peu comme j'ai pu. Et j'ai joué de la guitare tout de suite.
Et vous, bon, ça a été une évidence pour vous, pas pour votre père, mais en même temps, votre père était donc musicien dans l'orchestre de ce grand artiste qu'on va écouter dans un instant, qui s'appelait Cheikh Raymond.
Oui.
Son vrai nom, c'était Raymond.
Oui. Raymond, c'était un prodige de cette musique.
Arabo-andalouse, oui, c'est bien
oui,
le terme.
Hein. Il était de la même génération que mon père.
Oui. Mais père jouait dans son orchestre.
Hein, mon père jouait du violon. Mais pourquoi il jouait ? Parce que tonton Raymond était tellement grand oui. dans son art
oui.
que tous les autres chefs d'orchestre ne pouvaient pas lui faire concurrence et se sont mis à sa disposition. C'est-à-dire qu'il avait dans son orchestre Bach, Mozart, Schubert. Oui. C'était son orchestre, c'était des chefs
d'orchestre.
Les meilleurs. Et franchement, c'était un grand privilège de jouer dans son orchestre.
Parce que votre père vous l'a présenté finalement, malgré tout, il a fini par accepter votre désir de faire de la musique.
Mon père ne voulait jamais que je fasse de la musique parce qu'il a beaucoup souffert pour y arriver.
Vous êtes quand même retrouvés tous les deux ensemble dans certains enregistrements.
Mais c'est grâce à tonton Raymond.
C'est lui
parce
qui l'a voulu vraiment.
Parce que c'est tonton Raymond qui l'a voulu vraiment, qui a voulu ma guitare, mon jeu de guitare et... À l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé dans l'orchestre, en train de jouer avec tous ces monuments. Voilà.
Je me demande, on va écouter tout de suite un des rares, malheureusement trop rares, enregistrements du Cheikh Raymond. C'est une musique quand même assez savante, assez exigeante. C'est une vieille tradition qui remonte effectivement à l'ancienne histoire arabo-andalouse, comme on
oui.
dit, mêlant des influences juives, des influences arabes, des influences espagnoles. Mais quel était le public de cet orchestre à l'époque ? C'était qui venait écouter les concerts de Cheikh Raymond à Constantine ?
Tous les Constantinois de toute confession.
Ouais.
Il y avait beaucoup de juifs, bien sûr,
ouais.
beaucoup de musulmans.
Ouais.
Et quelques chrétiens, parce que les chrétiens...
C'est une musique plus difficile peut-être pour les,
oui.
pour les
mais,
Européens
mais
habitués
savez,
à des choses plus carrées.
J'étais surpris de voir que les chrétiens adoraient aussi cette musique. Parce que quand j'ai fait moi-même un hommage, j'ai rendu un hommage à Cheikh Raymond,
ouais.
et j'ai fait des spectacles de musique arabo-andalouse.
Vous en avez même fait des disques.
Pendant 3 ans, oui, j'ai fait des disques et tout. Et j'étais surpris de voir que dans le public, il n'y avait pas que des musulmans et des juifs, il y avait beaucoup de chrétiens.
غنيت غنايا كلهم معاني اليوم للرب وليت، اليوم للرب وليت، رب عصيت وهداني.
C'est magnifique, Enrico Macias,
oh là là
cette
là
voix
là
de Cheikh Raymond,
là 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 là.
Cette tradition donc judéo-arabe qui est bien antérieure à la colonisation française en Algérie. Hein, faut
ah ben
rappeler,
oui,
hein.
Bien sûr, bien sûr.
Et que alors j'ai parfois d'ailleurs un peu de mal à comprendre parce que je connais peu la construction des morceaux. Alors on comprend très bien grâce au disque que vous avez fait avec Taoufik et Cheb Mami, etc. Parce que vous divisez chacune de ces noubas avec les différents mouvements qui s'enchaînent. Mais c'est, oui, c'est une vraie science. Hein.
C'est une science et puis c'est le respect d'une certaine tradition qu'on est obligé de passer par là.
Quoi. C'est quoi une nouba?
Une nouba, c'est une... comment dirais-je? C'est un chapitre de Il y en a 14 des noubas. C'est une nouba, c'est suivant les différents modes, ouais, il y a un chapitre. Quoi.
C'est vrai. Voilà. Et c'est une forme musicale, donc.
Une nouba, c'est de la musique arabo-andalouse.
Ouais, ouais.
C'est le malouf. C'est typiquement constantinois. On retrouve le malouf dans beaucoup d'autres pays arabes. Dont la Tunisie, pas le Maroc. Le Maroc, c'est autre chose. Il y a d'autres traditions. Alger aussi, c'est pas le malouf, c'est le chaabi. Mais le malouf, c'est typiquement l'Est.
En tout cas, donc, vous avez baigné dans cette musique. Vous êtes d'ailleurs devenu, on le sait, le gendre de Cheikh Raymond. Votre femme, Suzy, qu'on a évoquée tout à l'heure, était donc sa fille. Et en même temps, on se dit tout d'un coup, mais de cette musique traditionnelle, très savante, à la chanson populaire, il y a un saut assez inattendu et que vous avez fait tout d'un coup, très rapidement. Alors, c'était quoi votre choix
Parce que parallèlement à...
Voilà, vous écoutiez aussi les chanteurs...
Parallèlement à mon implication dans, ouais, dans l'orchestre de Tonton Raymond, je faisais un petit peu l'école buissonnière,
voilà,
j'écrivais des petites chansons, je me présentais à des radios crochets, mais en cachette. Hein,
mais c'était ça votre vraie ambition, c'était d'être chanteur?
C'était pas ma vraie ambition.
Non.
Ma vraie ambition, c'était de percer dans la musique arabo-andalouse.
Ah oui, d'abord.
Oui.
Ah oui.
Mais il y a eu la fin de la guerre, c'est-à-dire le départ.
Ouais.
Il y a eu l'assassinat de Tonton Raymond.
Sans doute par un fanatique.
On ne sait pas encore. Bon, je ne veux pas revenir
il
là-dessus.
Il a été tué en pleine ville, hein,
de balles,
en 1961, si je me rappelle.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, je me suis retrouvé orphelin de Tonton Raymond, qui était mon père spirituel. Je me suis trouvé orphelin de sa musique, orphelin de l'orchestre. Et donc, quand je suis arrivé en France, comme j'étais instituteur aussi en même temps en Algérie, j'ai demandé un poste d'instituteur, la réponse ne venait pas. Alors c'est comme ça que mon papa a décidé de continuer cette musique. Au début, j'étais hostile parce que je sentais que c'était une trahison pour Tonton Raymond. Mais d'un autre côté, je suis content qu'il l'ait fait parce que ça, il a fait perdurer cette tradition pour les gens qui avaient cette nostalgie, qui avaient besoin.
Et qui pouvaient réentendre en France.
Qui pouvaient réentendre en France cette musique et tout ça. Et par la suite, j'ai invité mon père dans mes spectacles aussi. Et moi-même, je suis revenu à la musique arabo-andalouse.
Ah bah, les familles de musiciens, ce sont souvent un peu comme ça, des dynasties. Hein. Il y a le père, il y a le fils, il y a le petit-fils, et ça continue aujourd'hui, on l'a vu.
Oui, il y a même les petits. Il y a
encore
même les
petits-enfants.
Il y a même les petits-enfants. Il faut voir le petit, le dernier. Il a 6 ans, il a une guitare déjà.
Ah bah voilà.
Il sait mettre ses doigts sur la guitare. Alors, à chaque fois qu'il joue, il fait n'importe quoi, alors son père le crie et lui dit « Non, 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 ne fais pas n'importe quoi !» Alors tout de suite, il remet ses doigts sur les cordes et tout ça.
L'exil, évidemment, qui a tant marqué tous ceux qu'on appelait alors les expatriés en 1961-62, évidemment, vous l'avez chanté. On peut dire que c'est un peu votre premier succès, Adieu mon pays, on va l'écouter maintenant. Oui. Mais c'est signé Gaston Guenassia.
C'est mon vrai
vous
nom.
Vous avez encore votre vrai nom à l'époque.
Ah oui,
vous n'avez pas que... encore Enrico Macias.
Non.
Hein
non, 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 c'est venu après. C'est venu après.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
Voilà, donc ça n'est pas encore Enrico Macias, mais c'est, en même temps c'est déjà bien lui avec sa guitare. C'est vous qui vous accompagnez, hein ?
Ah oui, oui, absolument.
Et cette chanson qui évidemment parle beaucoup au cœur de tous ceux qui ont dû, comme vous, quitter l'Algérie. Pour vous retrouver alors dans une France complètement différente de ce que vous faisiez dans vos débuts de jeune chanteur, cette chanson a eu un petit succès, mais vous êtes arrivé en plein dans le monde des yéyés. Alors c'était vraiment les antipodes, non ?
C'est vrai. Mais quand même, cette chanson a rassemblé tous les pieds noirs, et oui. Enfin, les rapatriés d'Algérie, les harkis, qui se sont retrouvés, ils ont trouvé une voie, ouais, qui chantait leur condition et leur détresse d'avoir quitté l'Algérie, et surtout d'avoir été mal reçu, parce que
ça a été
très dur. Mais seulement, attention, je ne veux pas généraliser, parce qu'il y a eu des gens qui nous ont beaucoup aidés, ouais, qui ont été super sympas. C'est un petit peu comme dans la Shoah, il y a eu des gens qui nous ont dénoncés, qui nous ont fait déporter. Et il y a eu des justes,
comme on dit aujourd'hui.
Il y a eu des justes, alors bon, il faut quand même... Je voudrais généraliser, je voudrais dire qu'il y a eu plus de justes que de méchants, mais ça, ce n'est pas possible.
Alors, vous allez assez vite, après ça, c'est 1962, connaître vos premiers succès. Je disais, dans cette France où il y a un certain nombre de familles, il y a les chanteurs à texte, il y a les yéyés qui occupent un peu toute la place, il y a les grandes vedettes déjà, comme Brassens, Aznavour, etc. Comment est-ce que vous êtes situé un peu dans tout ce monde du showbiz où vous débarquiez ?
Je suis passé entre les gouttes. je sais pas, j'avais une telle foi dans ce que je faisais, j'avais une telle adhésion de gens qui comprenaient oui. mon style de chanson et oui. de texte et tout ça. Et
voilà.
C'est comme ça que j'ai tenu le coup. Et je dois quand même dire que j'étais pas tout seul dans cette histoire, c'est que j'avais d'abord Anne Hurugen qui m'a beaucoup
Alors,
aidé.
C'est très important d'en parler parce qu'il y a eu très peu de femmes arrangeurs à l'époque, et vous, ça a oui. été cette femme.
Mais cette femme, c'est une grande parolière aussi,
et
un grand auteur. Un
et
grand
chef d'orchestre.
Auteur, chef d'orchestre. Je me rappelle, elle dirigeait l'orchestre tout, complètement pieds nus. Ouais. Elle écrivait les textes. Et puis, elle faisait les arrangements sur place. C'était une femme fantastique.
Elle a été votre première partenaire.
Oui.
Hein, dans
Après, j'ai eu quand même...
Jean-Claude
Ric, bien sûr, mais surtout Jacques de Marny.
Et Jacques de Marny. Ben, c'est les deux hommes dont j'aurais voulu, oui, aussi qu'on parle un petit peu.
Ouais,
parce que,
Jacques de Marny, oui.
Mais alors, on va commencer quand même par Les Filles de mon pays, parce qu'il faut quand même évoquer les très grands succès. C'est la chanson qui vous a propulsé vraiment ?
Non, c'est pas la chanson qui m'a propulsé, mais c'est la chanson qui est restée, jusqu'à présent, une chanson culte.
Brille le soleil des soirs d'été, la mer y joue avec le ciel et les fait rêver. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourment, le moindre bonheur fait battre leur cœur. À qu'elles sont jolies les filles de mon pays, laï 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays, laï 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 laï. Quand un garçon leur fait la cour, il sait déjà qu'il n'aura rien de leur amour la première fois. Il doit s'engager, il doit mériter la main qu'il retient déjà dans sa main. Car elles ont les filles de mon pays. Laï 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 laï. L'honneur de la famille, les filles de mon pays. Laï 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 laï. Celui qui sait se faire aimer sera heureux. Elles n'ont plus rien à refuser à leur amoureux. Oui, pour cela, il faut voir papa, il faut voir maman, une bague au doigt. À qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï.
Voilà, j'ai toujours un peu honte quand je reçois un artiste qui a eu des très grands succès puis que je l'oblige à les réécouter pour la millième fois, mais en général ça,
ah non,
ça,
mais
ça,
moi,
ça,
moi,
ça me va.
Non, c'est pas que je sois narcissique, mais j'aime bien, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires, quoi. Par exemple, cette chanson-là, j'ai mis un an pour l'enregistrer.
Ah oui?
Parce que Jean-Claude Ric
Je précise
avait
pour les auditeurs de France Musique, ceux qui sont connaisseurs de musique contemporaine, que Jean-Claude Ric, que j'avais reçu ici, qui est un grand chef d'orchestre de variété, est aussi le père d'un compositeur qui s'appelle Nicolas Bacri.
Ah, oh là là, un grand compositeur. Je vais souvent à ses concerts.
Vous allez l'écouter?
Ah, je vais l'écouter. Ah, oui, je vais l'écouter. C'est un artiste qui... Ouais. Qui joue, qui compose, et ses musiques sont jouées ouais. en même temps que Mozart,
Beethoven,
par tous les grands orchestres. Ouais. Et il y a Nicolas Bacri,
voilà.
entouré de Mozart, Bach, c'est magnifique.
Et alors donc, son père, Jean-Claude Ric, qui était votre chef d'orchestre à l'époque, donc vous disiez,
oui, toujours,
cette chanson,
toujours.
Ça a pris beaucoup de temps,
oui.
Les Filles de mon pays.
Les Filles de mon pays, quand il me l'a présenté, il avait écrit le refrain ouais. des Filles de mon pays. Et j'aimais pas du tout Laï Laï Laï. Ah bon ? J'aimais pas du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pierre Cour, qui était l'auteur de la chanson, il est à court de...
C'est le cas de dire.
Pierre Cour, il est à court d'idées, il me met l'aïe.
Ça sert à quoi, ça ?
Et pendant un an, Claude Rix, qui est un garçon exceptionnel, qui a beaucoup de talent, mais qui est aussi très, très, très entêté. Mais pour la bonne cause. Et il a insisté pendant un an pour que je l'enregistre pendant un an. Et finalement, il m'a eu parce qu'il m'a dit, bon, écris le couplet. Alors, nanana. Bon, ça, c'était moi qui l'avais écrit, mais lui, il avait écrit quand même le principal. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ouais, j'ai dit, bon, mais finalement, il m'a convaincu.
Et vous l'avez fait, vous avez bien fait. Hein.
Oui, j'ai bien fait parce que ça a été un raz-de-marée, quoi.
Un raz-de-marée, en 1964. Et là, bon, les succès se sont enchaînés avec donc cet autre complice qui est, faut redire aussi un peu qui c'était, parce que c'est quelqu'un d'important dans la chanson française, Jacques de Marny.
Alors Jacques de Marny, pour moi, j'estime qu'il est à 50% de la carrière d'Enrico Macias.
Ah oui.
Parce que si je n'avais pas eu Jacques de Marny, je ne crois pas que j'aurais fait cette carrière. Parce qu'il a été l'auteur qui m'a le mieux compris et qui était complètement incompris par les autres artistes.
Ah oui.
Et avec moi, ça marchait.
Ça fonctionnait tout de suite.
Ça fonctionnait tout de suite, voilà.
Vous êtes baladés en France ensemble. Un jour, vous êtes allés en Normandie. Tous les deux, et ça vous a inspiré les gens du Nord ?
Pas en Normandie, j'étais dans le Nord.
C'était dans le Nord.
France.
Ah, ça me rassure parce que j'ai vu dans un livre que c'était en Normandie. Je me dis,
non.
Mais il y a vraiment que les gens d'Algérie pour penser que la Normandie est dans le Nord. Non, quand même.
Ouais.
La Normandie, c'est l'Ouest.
Pour moi, Paris, déjà, c'était le Nord.
Ah, voilà, c'est ça. Mais alors là, c'était vraiment dans le Nord. Les
oui,
gens
vraiment,
du Nord.
À Lens, exactement. C'était un gala pour les gueules noires.
Ouais.
Et moi, je voulais pas aller dans le Nord parce que j'avais peur du froid. Et j'ai accepté parce que un pied noir chez les gueules noires,
et
c'était très bien. C'était très bien. Alors j'étais vraiment déçu par le paysage, mais j'étais ravi par la gentillesse, la chaleur humaine des gens du Nord. C'est pour ça que j'ai écrit la chanson. J'ai écrit. On était en train
de
déjeuner.
Mardi. Ouais,
avec Jacques de Marny, on l'a écrite sur le coin d'une table.
Ouais.
Moi, je lui ai dit, les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Et lui, il a continué, il a fait un tube, quoi.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leur maison sont alignés, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on envoie de
se mariaient. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.
Les gens du Nord, très très belle chanson. Enrico Macias, vous avez fait ces dernières années beaucoup de très beaux disques, depuis Orange Amère, avec votre fils, La Vie Populaire, Le Voyage d'une Mélodie. Mais est-ce que vous reprenez dans vos tours de chant tous ces succès des années 60 qu'on vient d'entendre?
Ah oui, oui. Absolument. Oui. Absolument.
Je pense que le public aime ça aussi, même si...
Mais complètement, complètement. Ouais. Puis il y a des chansons incontournables que je ne pourrais jamais enlever de mon répertoire.
Voilà, comme Ces gens du Nord, donc toujours avec De Marny et Jean-Claude Ric,
d'ailleurs,
pour l'orchestre. Et donc, assez rapidement, dès vos premiers succès, vous avez aussi beaucoup chanté à l'étranger, et vous continuez encore aujourd'hui.
Je continue.
Vous avez un public international, Enrico Macias.
Oui, oui. Là, je vais partir au Brésil.
Oui.
Le 8 novembre, je pars au Brésil.
Mais alors, ce ne sont pas seulement les pieds noirs des quatre coins de la Terre qui viennent vous applaudir.
Non. C'est d'autres pieds noirs, peut-être.
Aux États-Unis, vous avez chanté souvent
aussi. Je chante très souvent aux États-Unis. Je chante un peu partout dans le monde, quoi. Mais sauf, il me manque la Chine et l'Australie. Voilà.
La Chine et l'Australie. Et sinon, vous avez chanté partout. Et puis, il vous manque l'Algérie, quand même.
Ah, ça, je vais vous dire, franchement, je me demande si un jour, je vais pouvoir aller en Algérie, d'abord me recueillir sur la tombe de mes proches, celle de Tonton Raymond, surtout.
À Constantine.
Et puis, surtout, je suis en train de me demander comment je vais composer mon spectacle...
le jour où
je serai à Constantine, parce que moi, mon rêve, c'est de faire que de la musique arabo-andalouse là-bas, mais je crois que les gens préfèrent aussi mes chansons.
Ah oui.
Voilà.
Et il faut dire que vous avez eu, il y a des années, un projet qui semblait bouclé, de tourner en Algérie et puis annulé
à chaque fois. Je sais pas. Je peux pas vous dire la raison. J'arrive pas à savoir.
On a dit que c'était lié à vos positions pro-israéliennes.
On a dit ça, oui, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, c'est la raison essentielle d'ailleurs.
Mais pourtant, vous, ce que vous aimez citer, en tout cas, comme un des grands moments de votre vie, de votre carrière, et aussi de votre vie de chanteur, c'est cette rencontre avec Sadat.
Bien sûr.
Au moment, justement, où Sadat et Begin ont conclu
un accord. De paix. Et c'est vrai que, pour moi, Sadat, ça a été un moment de ma vie biblique. Oui. Oui, parce que quand j'ai rencontré Sadat, pour moi, c'était... Je rencontrais un monument de un petit peu comme Mandela, comme tous ces gens-là, comme Martin Luther King, comme tous ces gens-là. Et le pays arabe le plus important qui a fait la paix avec Israël décide d'inviter tous les représentants de la diaspora juive, dont moi.
Dont vous, absolument. Alors, très à l'honneur, vous avez même parlé directement avec
Abraham. Il m'a invité dans sa propriété d'Ismaïlia. On a parlé ensemble. Il m'a dit deux choses importantes. Il m'a dit que moi qui voyage dans le monde, vous qui voyagez dans le monde entier, passez tout le temps ce message, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on aurait dit qu'il était un prophète. Que mon engagement pour la paix est un engagement irréversible. Et je fais passer ce message tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et vous lui avez consacré d'ailleurs une chanson à Nour el-Sadat.
Oui, quand il y a eu le drame, j'ai écrit « Un berger vient de tomber ».
Un berger vient de tomber, voilà. Ouais. Alors, on va écouter un autre document, là, maintenant. Je vais peut-être vous surprendre, si ça se trouve, vous ne le connaissez pas, mais vous savez, vos chansons ont connu beaucoup de succès, et puis beaucoup d'adaptations aussi, de reprises par d'autres. Et alors ça, c'est un document qui a directement à voir avec notre maison de Radio France qui a eu ses propres chœurs, dont celui-ci qui, on en a souvent parlé dans l'émission, cette grande chorale féminine qui s'appelait les djinns.
Marie, tu m'as pris dans tes bras. Marie, j'allais
Voilà, un vrai chanteur populaire. Merci. Hein. C'est quelqu'un qui ne connaît pas toutes les reprises de ces chansons.
De m'avoir étonné comme ça, c'est vraiment... c'est vraiment très bien fait en plus. J'avais entendu parler de cette chorale.
Les jeans.
Les jeans.
Voilà.
J'avais entendu parler, mais je ne savais pas qu'elles
avaient pour parrain Gilbert Bécaud. Et puis elles ont repris des morceaux classiques, des morceaux de variété. Elles ont eu leur succès au début des années 60. Cette chanson, d'ailleurs, Paris, tu m'as pris dans tes bras, qui n'a pas toujours été appréciée par vos amis pieds noirs au moment où eux-mêmes galéraient après leur arrivée en France. Et vous aviez du succès et vous chantiez Paris, tu m'as pris dans tes bras. Alors
c'était un excès d'amour parce qu'ils ne voulaient pas qu'il voulait que je n'appartienne qu'aux pieds noirs.
C'est ça.
Alors, il voulait que je sois que dans leurs bras, pas les bras de Paris.
Voilà. Enrico Macias, alors on ne peut malheureusement pas évoquer toute votre carrière, mais le fait est qu'après tous ces succès, vous avez eu une période dure, sombre, après la disparition de votre femme en 2008. Vous avez un moment un peu cessé d'écrire, de composer, d'enregistrer. Et puis on dirait que c'est reparti là depuis quelques années. Il y a eu cet album avec lequel on va finir, ce merveilleux album Voyage d'une mélodie. Il y a eu récemment Venez tous mes amis avec des jeunes chanteurs. Là, vous êtes encore au travail?
Oui,
c'est
même
reparti.
Plus qu'avant. Et maintenant, bon, évidemment, je n'ai pas oublié Suzy, mais... C'est j'ai pas complètement occulté la douleur de sa perte, mais pour moi elle n'est pas perdue parce que elle a tellement souffert dans sa vie de la maladie, elle a tellement souffert que la consolation que j'ai maintenant, c'est que là où elle se trouve, elle est mieux que dans ce monde, voilà. Et comme on n'est pas éternel, eh bien, dans pas longtemps, je vais la retrouver. Enfin, ou dans très longtemps.
On a le temps quand même.
Voilà.
C'est quoi votre futur album, alors?
Mon futur album,
oui.
C'est un album très gai, plein de soleil.
Ouais.
Et on va faire des petites allusions un petit peu à Camus.
Ah bon, à
oui,
Camus.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on devait faire carrément un album autour de Camus.
Autour d'Albert Camus.
Mais c'est difficile à faire.
Mais il sera présent.
Il est présent à travers toutes les chansons que nous sommes en train de composer tous ensemble. On est une grande équipe là. Le choix va être difficile parce qu'il y a déjà des choses formidables.
Et puis vous reprenez la scène. Hein. Alors là, j'ai vu, vous êtes le 23 novembre à Villeparisis, à Saint-Julien-les-Metz le 4 décembre, et puis à l'Olympia ensuite.
Non, mais avant, je suis à Levallois.
À Levallois.
Le 22.
Le 22, alors le c'est 22. Bien noté. Oui. Et puis en janvier, à l'Olympia, pour une soirée, le 14 janvier.
Le 14 janvier, pas seulement une soirée, mais le 14, le 15 et le 16, je crois.
Voilà, et donc ça continue avec votre nouvelle équipe.
Voilà. Et je donne tous les ans rendez-vous au public à l'Olympia. D'ailleurs, on a déjà réservé les dates pour 2016.
Ah bon, c'est bien.
Pour 2016, 2017, voilà. Si Dieu veut, si Dieu me prête vie. Voilà.
Bon, moi j'aime beaucoup, je le disais, avec une bande de musiciens formidables, cet album Voyage d'une mélodie.
Ah là là, oui.
2011, ouais. Hein, très beau disque.
Ça, c'est aussi le voyage de mes racines musicales aussi. Hein. C'est un très très beau disque.
On va se quitter avec Tu n'es pas seul au monde, très beau titre qui ouvre cet album.
Oui. C'est une chanson que... Soufredane, qui est décédé il n'y a pas longtemps, a écrit les paroles. Claude Soufredane.
Exact.
Il a écrit les paroles. Et c'est une adaptation d'un grand artiste québécois qui s'appelle Sokold, qui Never Be Alone. Au départ, c'était Never Be Alone. Et c'est pour ça que Seul au monde.
Merci beaucoup, Enrico Macias, d'avoir été avec nous ce matin sur France Musique.
C'est moi qui vous remercie d'aimer autant la chanson que vous. Merci.
Je m'en vais au hasard, je garde tous mes rêves, je m'égare tout entier sur un long chemin sans trêve, poursuivi d'un passé qui se voudrait le mien. Emporté par les vents, il n'en reste plus rien. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya ba. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya ba. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya ba. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya ba. Tu n'es pas seul au monde. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ya ba ya ba ya ba ya. Tu n'es pas seul au monde. Sur cette route infinie, en rêvant je voyage. Dans des lieux sans amour, je pose mes bagages. Dans cette ville qui m'accueille, ce sont mes derniers pas. Et je cherche le repos, mais ne le trouve pas. Ya ba 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 ba. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 ba. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 ba. J'entends une voix à la ronde. Tu n'es pas seul au monde. Il ne reste qu'un hier et demain a disparu. Tant d'espoir m'abandonne et je ne rêve plus. Le jour où la moisson fleurira le désert, je pourrai retrouver mon soleil et la mer. Ya ba 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 ba. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ba. Tu n'es pas seul au monde.
Tu n'es pas seul au monde, c'était Enrico Macias dans cet album Voyage d'une mélodie. Enrico Macias, que j'avais beaucoup de plaisir à recevoir ce matin. Il sera donc le 22 novembre à Levallois, le 23 à Villeparisis, puis à Saint-Julien-les-Metz le 4 décembre, et à partir du 14 janvier à l'Olympia. En attendant, il nous l'a annoncé bien sûr, la parution de son nouveau disque.